Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord ?
Oui.
Bah ouais, mais...
Il avait tout le temps l'air en colère, mais il disait qu'il ne faisait pas exprès, lui qui était pourtant un vrai tendre. Jean-Pierre Bacri a succombé à un cancer. Il laisse derrière lui des amoureux du cinéma inconsolables et des films et des répliques cultes.
On va revenir dès le début de ce journal, évidemment, sur sa carrière très riche et on entendra l'hommage de réalisateur Alexandre Arcadi.
Au sommaire également, un premier bilan du premier jour de vaccination pour les plus de 75 ans.
On sera aussi à Moscou où l'opposant Alexei Navalny appelle ses partisans à descendre dans la rue alors qu'un tribunal a ordonné son incarcération.
Et puis quand vous êtes à 3 semaines d'une grande compétition et que vous n'avez pas le droit de sortir de votre chambre d'hôtel. Système D pour les tennismen et women à Melbourne.
Un coup d'œil à la météo avec Anissa. De la douceur pour demain après-midi. Enfin une bonne nouvelle.
Ouais, à part le passage d'une petite perturbation au nord de la Seine, le temps est assez calme hein, quand même demain et ensoleillé sur une grande partie du pays. Les températures, vous le disiez, seront très douces, surtout dans le sud-ouest. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
D'abord donc cette triste nouvelle pour le cinéma français, la disparition de Jean-Pierre Bacri à 69 ans, emporté par un cancer.
Oui, Jean-Pierre Bacri, c'était un visage, c'était une voix, c'était un caractère et une immense carrière, Diane Chénouda.
Oui, c'était l'éternel râleur, mais c'est ce qui faisait son charme. Cet humour pince sans rire, qui nous faisait tant rire, le rendait si attachant et profondément humain. Écoutez sa réaction lorsqu'il reçoit, avec Agnès Jaoui, les 2 Césars du meilleur film et du meilleur scénario pour Le goût des autres. C'était il y a 20 ans.
Je ne vais pas commencer à sauter comme un fou. Je suis content, quoi. Je suis content. Il faut quand même relativiser. C'est pas si grave non plus d'avoir un César, parce que le lendemain, on a quand même mal aux dents. Il faut quand même travailler. Il faut quand même se disputer avec des gens qui vous font chier. Il faut aimer. Voilà, quoi.
Du Bacri pur jus, indissociable d'Agnès Jaoui avec qui il écrivait et jouait, Jean-Pierre Bacri était irrésistible aussi dans Cuisine et Dépendance, leur premier succès au théâtre, puis au cinéma, et il était hilarant dans Un air de famille.
Vous voulez boire quelque chose ?
Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi.
Ah bon ? Tu te fais du souci, chérie ?
Hein ? Non, pas du tout.
Ah, vous buvez quelque chose ?
Qu'est-ce que t'as ? Tu es fatigué ?
Non, arrête, tu me fais peur à chaque fois, là. Avec...
Est-ce que vous buvez quelque chose ?
On se souvient aussi de Smoking No Smoking, de On connaît la chanson, pour lequel il avait aussi décroché le César du meilleur scénario et celui du meilleur acteur dans un second rôle. Bacri n'aimait pas qu'on lui colle à la peau ce rôle d'éternel bougon et pourtant on sentait chez lui une mélancolie. Il aimait jouer les anti-héros, les anticonformistes qui ne trichent pas.
Merci. Merci Diane Chénouda, merci pour ce papier, ce portrait.
Et vous le disiez, on avait toujours l'impression que Jean-Pierre Bacri était un peu bougon et c'est ce qui faisait son charme aussi, un bougon bourré d'humour qui faisait hurler de rire ses amis. C'est ce que veut retenir de lui Alexandre Arcadi, qui l'a fait tourner dans Le Grand Pardon et Le Grand Carnaval.
C'était quelqu'un de très drôle, avec qui on passait des soirées absolument délirantes quand nous tournions en Tunisie Le Grand Carnaval. C'était exceptionnel de drôlerie, ces soirées passées ensemble à raconter des histoires, à imiter. Je me souviens particulièrement d'un moment où il imitait le commentateur de la radio ou de la télévision tunisienne commentant un match de football. C'était hilarant. Et voilà, moi, c'est ces images-là que je garde. Non pas le Jean-Pierre Bougon, le Jean-Pierre un peu en retrait. Non, je garde l'image d'un Jean-Pierre proche, drôle et sur Le Grand Pardon, c'était son premier film. Il était là, il a trouvé immédiatement sa place et puis son talent a fait le reste.
Le réalisateur Alexandre Arcadi, joint pour Europe 1 par Angèle Châtelier.
19h03, dans l'actualité également ce soir, le lancement de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans hors EHPAD.
Et pour les personnes les plus fragiles ou sous traitement médical lourd, 6,5 millions de personnes concernées. Lionel Gougelot a suivi cette campagne aujourd'hui à Lille, dans un centre mis en place par la mairie.
Un petit pansement sur l'épaule, Robert est soulagé de faire partie des premiers vaccinés, mais d'après lui, ça n'a pas été sans mal.
Par le téléphone, c'était incroyable. On a passé des heures au téléphone pour s'inscrire, mais ça n'a jamais marché. Et là, le voisin m'a dit, tiens, écoute, si tu veux, il y a une inscription à FIV. Là. Je lui ai dit, ouais, du coup, on est arrivé à FIV, sinon...
8 boxes de vaccination ont été aménagées par la mairie dans cette salle des fêtes municipale. 6 injections par quart d'heure dans un dispositif plutôt bien huilé, assure Akima, l'infirmière.
Oui, ça va très vite. L'aiguille est déjà préparée. On attend le patient, on vérifie tous les antécédents médicaux. On attend l'aval du médecin et ensuite on fait l'injection.
J'ai envie, madame, d'être vaccinée.
En supervisant l'installation du centre, Martine Aubry dénonce le manque de vaccins disponibles. 150 injections ici pour la première journée. On pourrait faire bien plus, estime la maire de Lille. Alors les médecins ont autorisé 6 vaccinations par flacon de vaccin.
Les vaccins sont reconstitués avec 1,8 ml de sérum physiologique, ce qui permet potentiellement de réaliser 6 vaccins.
Une injection comme une délivrance pour Francis, 75 ans.
Un peu moins d'appréhension pour cette maladie, et puis je sais que je vais pouvoir côtoyer un peu plus de personnes tout en conservant quand même nos distances. Mais bon, ça soulage un peu.
800 vaccinations sont programmées dans ce centre cette semaine, en attendant une montée en puissance des livraisons de vaccins. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et on entend avec ce reportage à Lille beaucoup d'interrogations sur les délais de rendez-vous et aussi sur la peur d'une pénurie de vaccins.
Oui, Anne Le Gall, ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'il faut être patient, c'est normal, c'est même mathématique.
Effectivement, le nombre de rendez-vous pour se faire vacciner dépend du nombre de doses de vaccins qui seront disponibles au fil de l'eau. Et les 6 millions de Français supplémentaires qui sont désormais invités à se faire vacciner ne pourront donc pas tous recevoir leurs injections dans les jours qui viennent. Car pour le moment, nous n'avons qu'un peu plus d'1,5 million de vaccins en stock. Et les livraisons, elles, se font au rythme de 500 000 doses hebdomadaires. Cela ne fait que 5 000 vaccins livrés en moyenne par semaine par département. Il va donc falloir vivre avec ce principe de réalité de l'arrivée progressive des vaccins, indiquait ce matin le professeur Alain Fischer. Mais selon le ministère de la Santé, 11 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna sont attendues d'ici fin février. Et d'autres vaccins pourraient aussi venir entre-temps compléter le dispositif, notamment celui d'AstraZeneca, dont l'autorisation doit être examinée fin janvier.
Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. L'Europe réfléchit en ce moment à un certificat de vaccination européen proposé par la Grèce. Ce passeport vaccinal suscite les réticences de certains pays face au risque de discrimination envers les personnes qui ne seraient pas vaccinées.
Oui, notez que l'Espagne passe la seconde dans sa campagne de vaccination puisqu'elle a commencé aujourd'hui à administrer les secondes doses du vaccin Pfizer-BioNTech.
Tandis que le Royaume-Uni, lui, s'est fixé comme objectif de vacciner d'ici la mi-février 15 millions de personnes prioritaires.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, la suite du journal dans quelques secondes. Alexei Navalny, incarcéré, appelle les Russes à descendre dans la rue.
Et puis comment s'entraîner au tennis quand on est confiné dans une toute petite chambre d'hôtel ?
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, la suite du journal et on part donc comme promis à Moscou où au lendemain de son retour, l'opposant russe est incarcéré jusqu'au 15 février au moins.
Oui, la sentence a été annoncée à l'issue d'une comparution assez surréaliste. Elena Voloshin, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Moscou. Alexei Navalny appelle les Russes à descendre dans la rue.
Oui, depuis hier, Navalny martèle qu'il n'a pas peur et appelle ses partisans à en faire de même. Depuis le tribunal installé à la hâte, dans un commissariat de police où il a comparu aujourd'hui, il a enregistré cet appel. Écoutez.
Que redoute le plus ce crapaud assis sur son gazoduc? Que redoute le plus ces voleurs assis dans leur bunker? Vous le savez très bien, que les gens descendent dans la rue, alors n'ayez pas peur. Descendez dans les rues. Ne descendez pas pour moi, descendez pour vous et pour votre avenir.
Alors comment l'audience qui a conduit à 30 jours de détention provisoire pour l'opposant a-t-elle pu se tenir dans un commissariat? C'était la grande question pour les journalistes refoulés à l'extérieur par moins 20 degrés. Pour l'entourage de Navalny, cela valait les tribunaux extrajudiciaires staliniens avec des vices de procédure en série. À la clé pour Navalny, après cette détention provisoire, une autre audience où sa peine de prison avec sursis pourrait être commuée en prison ferme à la demande de l'administration pénitentiaire qu'il accuse de s'être soustrait à son contrôle judiciaire alors même qu'il était soigné en Allemagne pour un empoisonnement qu'il a dénoncé comme une tentative d'assassinat ratée par les services secrets russes.
Elena Voloshin, correspondante d'Europe 1 à Moscou, et la communauté internationale continue de demander sa libération immédiate. Le centre-ville de Washington a des allures de camp retranché à 48 heures maintenant de la cérémonie d'investiture sous très haute surveillance du président élu, Joe Biden, qui a de nouveau appelé aujourd'hui à l'unification d'un pays divisé.
Des milliers de soldats de la garde nationale, l'armée de réserve américaine ont déjà été déployés. C'est sans précédent.
Oui, ils seront 25 000 jusqu'à 25 000 mercredi dans la capitale pour protéger une large zone allant de la colline du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment mercredi jusqu'à la Maison-Blanche.
À 3 semaines du coup d'envoi de l'Open d'Australie de tennis, on parle de sport évidemment, 72 joueurs sont à l'isolement.
Oui, parce qu'ils sont considérés comme cas contact, ce qui veut dire qu'ils n'ont absolument pas le droit de voir qui que ce soit. Un isolement pur et dur, interdiction de sortir et de s'entraîner. Donc, on imagine comme ça doit être frustrant. Corinne Boulot, vous avez pu joindre l'un d'entre eux, cloîtré donc dans sa chambre d'hôtel.
Oui, vous avez l'exemple de ce jeune joueur français de 23 ans, Alexandre Muller, qui a eu la désagréablement surprise d'être considéré comme cas contact. Un passager de son vol Doha-Melbourne ayant été testé positif à son arrivée sur le sol australien. Résultat, Alexandre est confiné dans sa chambre d'hôtel sans pouvoir en sortir. Privé d'entraînement, il a eu recours au système D pour s'entretenir physiquement en soulevant notamment au-dessus de ses épaules un fauteuil de sa chambre.
C'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour pouvoir porter, qui pèse un petit peu lourd pour avoir quelques poids. Mais là, on a eu au moins une bonne nouvelle, c'est que normalement, on va recevoir un vélo. Et puis, j'ai demandé aussi des poids pour pouvoir faire un peu de musculation et pour pouvoir au mieux m'entretenir physiquement.
Et pour la nourriture, eh bien, elle n'est pas vraiment digne pour le moment de sportif de haut niveau. Mais la situation semble un peu évoluer.
Là, je viens de recevoir le dîner. Bon, il y a un peu de blé et un bout de saumon, donc c'est pas top. Mais si jamais quelqu'un a encore faim ou si le repas lui plaît vraiment pas, je pense qu'ils l'ont rajouté. On a 100$ de budget pour pouvoir commander sur Uber Eats et ça sera rajouté sur son prize money à la fin du tournoi.
Les Australiens pris de court par autant de joueuses et joueurs cas contact tentent de corriger le tir au fil des jours. Ils sont 72 bloqués à l'hôtel pendant 14 jours, quand les autres sont, eux, autorisés à sortir 5 heures par jour pour s'entraîner.
Merci beaucoup Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1.
Merci Isabelle, on vous retrouve à partir de 18h demain.